Une vie, une œuvre. Roger van der Weyden, vers 1400-1464. Proposé par Luc Ponette.
Il y a opposition de couleurs et il y a opposition aussi entre simplicité et richesse. L'ange apparaît avec une chape dorée, une chape magnifique, brodée d'or et ornée de broderies de fer de vigne, tandis que la Vierge a elle-même une robe très très ample, bleu foncé, extrêmement simple. Elle a les cheveux défaits, qui signifient son état de Vierge. Et elle fait opposition dans cette simplicité, cette magnificence du bleu, qui est le bleu de la spiritualité. Elle s'oppose à la richesse de l'ange, mais qui lui-même représente l'Église et représente tout le pouvoir et la certitude finalement de l'Église qui s'affirme dans sa gloire future. Et la gloire, elle est présente aussi dans les rouges. Il y a derrière la Vierge un lit à baldaquin, qui peut être fermé par des rideaux, et ce rouge du lit correspond aux coussins rouges qui sont disposés sur le banc et qui vont fermer la cheminée. Et il y a une symbolique magnifique de, premièrement, de la simplicité de la Vierge en face de, qui demeure elle-même en face du pouvoir et de la richesse. Et il y a aussi ce rouge du désir. Faire un lit rouge, c'est quand même dire beaucoup sur ce que représente un lit. Et justement, il y a une extraordinaire correspondance avec les coussins. Les coussins qui sont posés sur le banc. Ce banc, en fait, a été tiré devant une cheminée. C'est un peu bizarre d'aller mettre un banc devant une cheminée. Et je pense que cela veut dire que la Vierge pouvait connaître le désir et elle a renoncé à tout désir. Elle a renoncé au feu du désir. Le rouge est la couleur de l'interdit du désir, mais il est aussi annonciateur de sa gloire future. Elle est bénie entre toutes les femmes.
Glorieuse Vierge Marie, puisque j'aime à vous servir et que je vous porte en mon cœur, il en sera fait un chant nouveau par moi qui chante en homme qui implore de l'aide pour sa folle conduite. Car je paierai cher mes caprices à l'heure où sera fait l'appel au jugement si pour moi vous n'êtes pas munis d'arguments. Aucun n'aura envie de rire, rien de rassurant pour le jeune homme. L'ignorance n'excuse pas les péchés qu'on commet dans les fêtes. Chacun y dévoilera sa vie. Et, noble dame souveraine, soyez couverture et manteau pour moi qui suis si prompt à mal agir et qui, par vanité, mis mon âme en gage.
Au XVe siècle, la peinture flamande est le témoin d'une découverte capitale. Svetlana Todorov.
Nous sommes tellement habitués à ce que la peinture classique, si l'on veut, représente le visible et par conséquent s'attache aux particularités individuelles de chaque élément du monde existant, que nous avons du mal à penser au fait qu'il s'agisse là d'une découverte et que ce n'est pas de tout temps que les peintres représentaient le visible et qu'ils s'attachaient aux particularités individuelles. C'est donc un des grands événements de l'histoire de l'image que cette entrée de l'individualité dans la peinture. Elle se produit à une époque précise, vers le tout début du XVe siècle, et tout d'abord dans la miniature. La miniature, probablement parce qu'elle est destinée à un usage privé, et que dans ce cadre, le peintre peut innover et le mécène qui lui commande les images sollicite cette innovation. Donc, c'est là que les changements se produisent en premier. Mais très peu de temps après, une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années plus tard, cette découverte se répercutera aussi sur les panneaux, sur les toiles que peignent les peintres et qu'ils destinent soit aux églises, soit davantage à l'usage public de ces mêmes mécènes que sont en particulier des personnages comme le duc de Bourgogne. C'est parmi ces peintres qu'on trouve donc les tout premiers portraits individuels, même si quelques prodromes peuvent toujours être trouvés ici ou là. Mais c'est à cette époque que se produit la véritable introduction du monde individuel, et en particulier de l'individu humain, dans la peinture.
Et avant Roger van der Weyden, il y avait déjà à la fois Robert Campin, le maître de Flémal, et également Jean van Eyck.
Bien sûr, donc van der Weyden appartient à la seconde génération. Il est né au tournant du siècle et l'on pense qu'il a été le disciple de Campin, en même temps que d'autres peintres, mais c'est un disciple d'un tel talent que probablement, encore dans la vingtaine, ou en tous les cas vers l'âge de 30 ans, vers 1430, il devient quelque chose comme le maître collaborateur du maître, et on pense même que c'est lui qui, à son tour, va influencer Campin. Campin a ce mérite d'être le véritable pionnier. Il semble que ses innovations à lui ont précédé celles des autres. Van Eyck, qui lui est au service du prince, à la différence de Campin, qui est, comme le sera Rogier, un peintre de ville. Donc l'un exécute des tableaux essentiellement pour son maître et mécène, alors que les deux autres exécutent des commandes qui leur viennent de partout. Il faut ajouter à cela que Campin n'a pas laissé, à l'époque même, de traces lisibles. Nous avons quelques éléments épars de son existence, de sa date de naissance ou de certaines commandes, mais tout cela est passé sans que véritablement les contemporains s'aperçoivent qu'il s'agisse là d'un peintre de tout premier plan. En revanche, Van Eyck et van der Weyden sont reconnus de leur vivant comme de très grands peintres.
On sait peu de choses des premières années de celui qui portait encore le nom de Rogier de Le Pasture. Fils d'un coutelier de Tournai, Rogier est admis dans la guilde de Saint-Luc comme franc-maître quelques années après son apprentissage. En 1435, il s'établit avec sa famille à Bruxelles où il exerce les fonctions de peintre officiel de la ville. La réputation de l'atelier de Rogier, devenu van der Weyden, situé dans le quartier des Orfèvres à Bruxelles, atteint une dimension internationale et on suppose que son fils Pierre et Hans Memling y travaillaient comme assistants. En 1450, Rogier se rend en pèlerinage à Rome pour l'année sainte, comme l'atteste la présence de ses œuvres dans l'Italie de l'époque. À Bruxelles, Van der Weyden mène la vie d'un bourgeois très aisé, dont les préoccupations charitables se remarquent dans les dons d'argent et de tableaux qu'il fait à la chartreuse d'Erine, où son fils aîné Corneille est entré. Aucun artiste de son temps n'a exercé une aussi grande influence que lui chez les peintres, les sculpteurs, les graveurs des Pays-Bas méridionaux, mais aussi de toute l'Europe. Au sommet de sa gloire, Roger van der Weyden meurt en 1464 et est enterré dans l'église Sainte-Gudule. Sur son épitaphe, on peut lire « Bruxelles pleure ta mort, elle craint de ne plus revoir d'artiste aussi habile ». L'art gémit aussi, privé d'un grand maître que nul n'a égalé. L'étude de la personne et de l'œuvre de Rogier est une des plus controversées de l'histoire de la peinture flamande du XVe siècle, Roger van Scoot.
C'est une des questions les plus controversées, en partie parce que on s'interroge quant à savoir si l'on a affaire à un artiste ou à plusieurs artistes. Une autre raison de la controverse, c'est qu'il n'existe pas d'œuvre qui lui soit attribuée avec certitude. Et un troisième élément, c'est que il n'y a pas d'accord quant au lieu où cet artiste a appris véritablement son métier. Le paradoxe, peut-être, c'est que malgré ces problèmes, cette œuvre a suscité un intérêt très grand et qui, jusqu'à un certain point, reste entier malgré ces problèmes qui, dans le fond, ne sont peut-être pas tout à fait essentiels quand il s'agit de définir l'art de cet artiste que l'on appelle Roger van der Weyden et qui, dans la ville de Tournai, sa ville de naissance, porte plus familièrement le nom de Rogier de Le Pasture.
La contribution de Roger van der Weyden à cette révolution, Svetlan Todorov.
Donc, Rogier appartient à la seconde génération. Il n'est pas vraiment, de ce point de vue, un esprit révolutionnaire. C'est plutôt celui qui va amener à un degré de perfection que n'avaient pas atteint les pionniers, et en particulier Campin, cet art de la représentation, mais de la représentation de l'individuel et de l'individu. Mais en même temps, il y a chez lui une référence à la doctrine et par là une soumission du visible à l'intelligible, donc à la pensée, qui peut nous apparaître comme un petit pas en arrière sur le plan de cette libération du visible qui caractérise ses prédécesseurs. Si on part des portraits de van der Weyden ou cette interprétation de l'individu est particulièrement visible, on s'aperçoit qu'il y a comme un trait commun aux portraits de Van der Weyden, comme si une certaine spiritualité devait être nécessairement présente. Le contraste est particulièrement intéressant quand on compare les deux représentations de Rollin, du chancelier Rollin, qui est en quelque sorte le premier ministre du duc de Bourgogne, qui gère ses affaires, c'est cela sa fonction, et dont on trouve, comme on sait, une vierge au chancelier Rollin exécutée par Van Eyck, et ensuite la représentation de ce même chancelier Rollin à Bonn, à côté du jugement dernier, puisque c'est ce chancelier qui commandait, eh bien, la confrontation de ces deux portraits. Il faut se dire que c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est comme si Léonard de Vinci et Michel-Ange avaient peint le même homme pour qu'on puisse comparer l'œuvre de deux génies de la peinture sur un seul et même objet. Eh bien, le résultat de ces deux approches est frappant avant tout dans sa différence. On reconnaît le même homme, la ressemblance physique est là, mais le panneau de Van der Weyden nous paraît comme infiniment plus stylisé, plus travaillé dans le sens d'une forte interprétation que le tableau de Van Eyck, dans lequel nous avons l'impression d'un hyperréalisme, d'une représentation minutieuse et fidèle à ce qui peut nous apparaître comme un personnage réel. Du coup, comparé au portrait de Van Eyck, le portrait de Van der Weyden n'est pas un portrait typiquement réaliste. C'est plutôt quelque chose de maniériste, tellement c'est un serviteur de Dieu qui se trouve représenté là, plutôt que un simple individu. En somme, il y a toujours déjà cette force de la doctrine qui réapparaît chez lui. Mais toute règle comporte son exception, et en l'occurrence, un autre tableau de Van der Weyden nous présente un personnage individuel de façon particulièrement directe. Il s'agit, pense-t-on parfois, de son épouse, parce qu'on a du mal à imaginer qu'il ait pu représenter de façon aussi directe, aussi intime, une personne qui n'aurait été que l'épouse d'un autre, qui lui aurait commandé en somme le tableau. Donc cette femme nous envisage, elle nous fixe de son regard bleu, et nous sommes là confrontés à quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Ce face-à-face entre le portrait et le spectateur.
Table du jugement dernier de l'Hôtel Dieu de Beaune est devenue une œuvre de musée, mais il n'en a pas toujours été ainsi, Eliane Gandinet-Waldstein.
Non, ce rétable du jugement dernier de Beaune avait été fait pour la grande salle des pauvres de l'Hôtel Dieu, fondée par le chancelier Nicolas Rollin, qui était un personnage de très grande importance à l'époque, et quelqu'un de très riche, et qui a éprouvé le besoin de faire comme une sorte de transaction, c'est lui qui écrit ça, entre les biens périssables dont il a été comblé et les biens éternels. Et il offre donc cet Hôtel-Dieu de Beaune à ses concitoyens et il fait appel à celui qui est considéré comme le plus grand peintre vivant du duché de Bourgogne, puisque à l'époque où Roger van der Weyden peint le retable, Jean van Eyck est mort. Et donc en 1441, il fait appel à lui pour faire ce retable.
C'est évidemment des temps très troublés.
Oui, c'est un siècle très très difficile, puisqu'il y a la guerre de Cent Ans, puisqu'il y a des épidémies de peste, des épidémies de famine. L'Hôtel-Dieu de Beaune est fondé pour venir en aide aux malades et il y a cette grande salle qui est réservée aux pauvres, où ils sont soignés gratuitement. Et au fond de la grande salle, il y a une chapelle et sur l'autel était placé cet immense retable puisqu'il fait, il fait plus de 2 mètres, 2 mètres 25 de haut, et 5 mètres 46 de large.
Quand il est ouvert.
Quand il est ouvert. Tous les malades pouvaient le voir. Et alors fermé, il comportait 6 volets et ouvert, 9. Quand il était fermé, les malades avaient devant les yeux les deux donateurs, Nicolas Rollin et Guigonne de Salins. Au centre, les deux saints patrons de l'Hôtel-Dieu, Saint Sébastien et Saint Antoine, qui étaient tous les deux invoqués contre la peste. Et donc, avec ces quatre volets du bas, c'était un peu le temps présent qui était remis devant leurs yeux, le temps des difficultés et le temps de la charité avec ce don fait par Nicolas Rollin et Guigonne de Salins. Et puis, au-dessus, il y en a deux autres qui représentent l'Annonciation, qui ouvre une espérance aux malades. Et quand le retable s'ouvre, les malades le voient ouvert les dimanches, les jours de fête.
Pour la messe, pour les grands événements.
Oui. Il déploie ses 9 volets et là, ça devient un éblouissement de couleurs.
Douce dame, en gloire exaltée, fontaine et ruisseau de douceur, reine de la lignée des rois, il vous doit souvenir de ceux dont vous devez être servi afin que l'ennemi, par tricherie, ne soit leur seigneur séduisant. Il détient plusieurs flèches empoisonnées dont il guette vos gens pour les frapper à mort. Priez votre doux fils de rassembler ses agneaux en bon berger. Pour vous, il en fera beaucoup, car vous fûtes son pur vaisseau. De ceux qui vous ont affligé, mais qui souffrent de leur folie, il vous faut prendre le fardeau. Soyez pour eux la forteresse et le château, quand l'ennemi sur eux vient lancer son attaque.
On ne peut pas imaginer un peintre seul au travail dans son atelier. D'abord, tout simplement, parce qu'il n'existait pas d'académie et que le seul moyen d'apprendre son métier est d'entrer dans l'atelier d'un maître. Le premier jour, je suppose qu'on balayait par terre. Et puis, au bout d'un certain temps, on broyait les couleurs. Et puis, un petit peu plus tard, on s'exerçait au dessin sous-jacent. Mais la veille du jour où l'apprenti allait quitter l'atelier pour devenir un maître lui-même, que faisait-il? Mais probablement travaillait-il à la réalisation d'un tableau qui avait été commandé au maître. De là, évidemment, une certaine difficulté de vouloir pointer du doigt l'œuvre originale qui n'aurait été faite que par une seule personne. Je pense que peut-être qu'on peut dire que ça n'existe pas. On conserve au musée d'art d'Anvers un retable des sept sacrements. Les études qui ont été faites de ce retable, qui comporte beaucoup de portraits que l'on peut identifier, a permis de montrer que 10 des portraits sont en fait des têtes sur un support indépendant du support de bois du retable, qui ont donc été réalisés sur place, là où étaient les personnages que l'on voulait représenter et qui ont été dans la suite inclus dans le retable. Dans la réalisation de l'œuvre, 4 ou 5 mains différentes sont intervenues pour la mise en place de la composition et des couleurs. Une partie du dessin sous-jacent a été réalisé par Rogier directement sur le support. Une autre partie, réalisée par Rogier sur un support indépendant, a été transposée par certains de ses aides, de ses disciples, sur le support lui-même. Une troisième partie a subi des corrections par le fait de Rogier lui-même à partir d'un dessin réalisé par d'autres.
Ce qui frappe d'abord, c'est la lumière d'or qui envahit presque l'ensemble du retable. Cette lumière d'or qui évoque le paradis. Alors, il y a une grande bande horizontale qui est l'assemblée des saints. Et au centre, un axe vertical très puissant qui est formé par le Christ assis sur un arc-en-ciel, celui qui apporte la nouvelle alliance à l'humanité. L'arc-en-ciel est le symbole de l'ancienne alliance, celle qui a été conclue avec Noé par Dieu après le déluge. Et au-dessous de lui, il y a l'archange du jugement. Aux deux extrémités de l'arc-en-ciel se trouvent Marie et Jean-Baptiste, qui forment avec le Christ comme une sorte de triangle indissociable. Marie qui lui a donné chair et Jean-Baptiste qui lui a donné la parole et qui sont des intercesseurs très privilégiés. Et un autre triangle inversé est formé par le vêtement blanc de l'archange et par, à droite et à gauche du Christ, des anges blancs qui portent ses armoiries. Au XVe siècle, on est très très sensible aux armoiries des seigneurs. Et alors, les armoiries du Christ, ce sont les instruments de la passion. Donc, la croix, les clous, la couronne d'épines. Et puis, en bas du retable, il y a une autre bande horizontale qui est la terre brune dont germent, on peut dire, les ressuscités à l'appel des anges. Les anges, donc, alors ce sont des anges rouges, du même rouge que celui du manteau du Christ, et qui appellent les élus à sortir de terre. Van der Weyden les fait sortir nus, comme au jour de leur naissance. C'est une renaissance. Et ces ressuscités, les uns se tournent vers le Christ et se redressent, les autres se détournent de lui et chutent. Pour Van der Weyden, le bien a partie liée avec le haut. Il y a un véritable départage des cœurs qui se produit dans ce rétable. C'est ça, d'ailleurs, qui va former le jugement. Le jugement ne va pas être fait par des anges ou par des démons. Il va être intérieur. Il n'y a pas un seul démon. Contrairement à la plupart des jugements derniers qui l'ont précédé, ceux des cathédrales, ou celui même contemporain de Fra Angelico, très volontiers, les imagiers du Moyen-Âge se plaisent à représenter un chaudron avec des diables qui torturent les damnés, qui les piquent, qui les brûlent, etc. Là, il n'y a absolument rien de semblable. Comme si, à l'heure du jugement, il n'y a que le Christ qui a voix au chapitre. C'est lui le juge, c'est lui le sauveur. Et selon l'attitude de ceux qui ressuscitent, qui se tournent vers lui ou se détournent de lui, ils vont être ou non sauvés. De chaque côté des mains du Christ, il y a la phrase de l'Évangile du chapitre 24 de l'Évangile de saint Matthieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Et donc, de chaque côté du Christ se trouve la phrase « Venez les bénis de mon Père » et de l'autre côté « Allez loin de moi, maudits au feu éternel ».
Face est pâlie et les yeux éteints dans le visage. De parler, il n'a plus l'usage. La langue au palais se lie. Le pouls précipité halète. La vie fuit. La mort est prête. Il n'est que douleur sans mesure en attendant sa sépulture. Partout se disjoignent les os. Tous ses nerfs se tendent à rompre. De tous côtés, c'est un assaut. Il perçoit tous ces faits passés dont il lui faut rendre le compte. Il n'a pas le temps d'expier. L'heure est choix, brève et douloureuse. Et sa pauvre âme en est peureuse. Alors veut le désespéré, l'adversaire de notre foi, qu'il se montre hideux et noir, terrifiant, plus qu'il n'est possible, en disant « Pécheur, tu es mien, qu'il te souvienne de ton vice et du temps que tu as perdu, à ta fin te voici venu. »
Comment un artiste mexicain, d'origine juive de Pologne et d'Ukraine, a rencontré la peinture de Van der Weyden, Saul Caminer?
Et je suis allé à Madrid, je suis rentré au Prado, ça fait déjà peut-être 25 ans. Et je voulais voir Velázquez, Goya, enfin les peintres espagnols, et je tombe sur la toile de Van der Weyden, la descente de la croix. Et je suis resté magnétisé, j'étais envoûté Et d'abord, il y avait les couleurs, la proportion, mais j'ai senti dans les couleurs pas des surfaces colorées, mais des surfaces vivantes. Et j'ai regardé les bleus de la robe ou les rouges, et pour moi c'était des puissances symboliques et vivantes. Et je pouvais pas sortir de la salle où il y avait sept tableaux. Et bon, maintenant, ce que je fais, c'est que chaque fois que je passe par Madrid, j'y vais faire un pèlerinage devant cette toile, et elle garde toujours pour moi cette fascination, ce pouvoir envoûtant et ce magnétisme.
Il faut dire, Saoul Kaminer, que c'est un tableau très très grand. Il fait 2,20 m sur 2,60 m à peu près. Donc les personnages sont pratiquement en taille réelle.
Ah oui, c'est autre chose qui est peut-être fait partie du magnétisme du tableau. C'est que on a l'impression d'être dedans. Quand on est en face de ce tableau, on est complètement transporté. À l'époque, c'est comme si c'était un voyage à l'inconscient. On ne sait plus où est la réalité. Je dirais, c'est un théâtre qui se passe à l'intérieur d'une niche, et on peut effectivement le voir comme une sculpture. L'impression que j'ai des silhouettes qui sont découpées, mais qu'on voit pas, on ne sent pas les découpages, c'est dû justement à ce que j'arrive à les ressentir comme des volumétries, comme des, j'ai l'impression de pouvoir mettre la main derrière les silhouettes. Et effectivement, il y a un sentiment des sculptures, je dirais, je répète, un sentiment des volumes, d'être en face de quelque chose de sculpté. Et c'est vrai que la situation ou la façon dans laquelle a été peint l'espace, comme c'était une niche, et provoque davantage l'impression de volumétrie.
Alors évidemment, cet aspect des choses doit intéresser le sculpteur aussi que vous êtes, Saoul Kaminer.
Et oui, et quand je vois comment la lumière tombe sur une sculpture, j'ai la même sensation qu'ici. Il y a une lumière dans ce tableau parfaite, et il y a un dialogue avec mon travail, avec ça.
Dans une récente exposition chez Tessa Herold, dans un des grands tableaux que vous exposiez, Les voies de la terre, il y a une référence directe à cette descente de croix.
Chaque fois que je revois ce tableau, je vois aussi une partie de ma vie. Parce qu'il y a une signification qui est très importante dans ce tableau. Bon, c'est la descente de la croix. Et je crois aussi que c'est un moment humain dans chaque être humain. Même en étant juif, pour moi, la figure du Christ, elle est cruciale, dans le sens où il y a la croix aussi, mais elle est cruciale et importante. Et ça dialogue avec les processus d'individuation de l'être humain. Et ici, dans ce tableau, comme tous les contemporains de Van der Weyden, il y a une rencontre très puissante entre les symboliques, les formels, les picturales, la couleur, la lumière. Et pour moi, c'est quand un peintre peut réussir un tableau, véritablement le réussir, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire pour la vie de cette peintre.
Die Vater
Et peut-être est-ce le moment d'invoquer cette description qu'avait faite des tableaux de van der Weyden son grand contemporain Nicolas de Cuse. Nicolas de Cuse est une grande figure de la théologie et de la philosophie de la Renaissance, l'auteur de la célèbre formule de la coïncidence des contraires, par laquelle il retrouve une des intuitions fondamentales de la doctrine chrétienne, à savoir cette interpénétration du principe spirituel et du principe charnel qui s'incarne en Jésus. Et ce Nicolas de Cuse, grand humaniste, grand précurseur de l'humanisme profane aussi, va se servir des tableaux de van der Weyden pour illustrer son idée de Dieu. Si vous me permettez, je vous lirai ces quelques phrases qui se trouvent au début d'un texte de Nicolas de Cuse intitulé « Le tableau ou la vision de Dieu ». Il dit, au début de sa préface, « Si je veux vraiment vous mener par des voies humaines aux choses divines, son propos dans ce texte, il faut que ce soit par quelques comparaisons. Or, parmi les productions humaines, je n'ai rien trouvé de plus convenable à mon dessein que l'image d'un omnivoyant. Un omnivoyant, j'ouvre une parenthèse, c'est donc précisément un personnage peint qui vous donne l'impression de vous suivre du regard, quelle que soit votre situation par rapport au tableau. Donc, l'image d'un omnivoyant dont le visage est peint avec un art si subtil qu'il semble tout regarder alentour. On trouve de nombreuses et excellentes peintures représentant de tels visages, celle du Sagittaire, place de Nuremberg, et puis celle que le très grand peintre Rogier a exécutée dans le si précieux tableau qui se trouve au tribunal de Bruxelles. Alors nous savons aujourd'hui que ce tableau a disparu dans un incendie, mais que entre-temps, il avait été copié pour une tapisserie, et cette tapisserie est préservée. Nous avons donc un peu l'image de ce dont parle Nicolas de Cuse ici. C'est une tapisserie préservée à Berne, en Suisse. Et effectivement, il s'agit de ce qu'on croit être un autoportrait de Rogier, dans lequel le regard est peint de telle manière qu'il suit le spectateur partout. Mais c'était visiblement une spécialité de Rogier, puisque la représentation, peut-être donc de son épouse, était également une omnivoyante. Autrement dit, et là on a quelque chose de très singulier, c'est Dieu qui se trouve en quelque sorte imaginé par le peintre. L'objet de la peinture devient ce qui juge le spectateur purement humain. Cette assimilation du peintre et de ses représentations avec la chose divine sera l'une des grandes découvertes de la Renaissance. Vous savez, Alberti va affirmer que le créateur d'art, d'œuvres d'art, imite le geste divin qui crée le monde. Eh bien ici, Rogier se trouve donc capable de créer un équivalent divin, cette image qui nous regarde de partout.
Est-ce que l'attribution des œuvres est si difficile à établir, Roger Van Scoot?
Dans le cas de Rogier, il n'y a pas d'œuvre authentifiée au sens strict du terme. C'est-à-dire une œuvre pour laquelle, par exemple, on aurait une commande en bonne et due forme. une œuvre sur laquelle des inscriptions définiraient quel est l'artiste qui l'a réalisé, à quelle date, dans quelle intention. Il n'y a pas non plus de témoignage contemporain digne de foi. Dès lors, on doit se baser sur d'autres critères, établir des conjectures, des hypothèses, des présomptions. On doit aussi se baser sur le style. Mais combien la chose est dangereuse. Heureusement, depuis un certain temps, on développe les études techniques grâce à l'apport des méthodes de laboratoire. Et je crois que un des problèmes d'attribution de certaines œuvres a été résolu par ce point. L'étude que nous avons eu l'occasion de mener, qui a couvert l'ensemble des œuvres attribuées aussi bien à Flémal Campin qu'à Van der Weyden, a permis, nous semble-t-il, d'établir une distinction assez nette entre ce que l'on attribue à Flémal Campin et à ce qu'on attribue chez Roger Van der Weyden. C'est donc l'étude du dessin sous-jacent de ses œuvres qui est un élément qui nous paraît en l'occurrence assez fondamental. Une des raisons supplémentaires pour lesquelles les attributions ne sont pas simples, c'est que dans cette production d'une bonne quarantaine d'œuvres, il n'y a pas d'œuvre qui ait gardé ses cadres d'origine, sauf le triptyque Braque conservé au musée du Louvre. Il faut savoir que les peintres flamands du XVe siècle munissaient le support de bois d'un cadre avant d'y déposer les diverses couches de préparation, couches picturales, de vernis, etc. Donc, le cadre est partie intégrante de l'œuvre. Et pour donner un exemple de l'intérêt de conserver les cadres originaux, on peut considérer que chez Van Eyck, il y a une dizaine d'œuvres qui comportent une signature. Eh bien, sur ces 10 œuvres signées, 8 le sont sur le cadre, grâce au fait que pour Van Eyck, on a gardé les cadres.
D'un peu loin, comme le voyaient les malades de la grande salle des pauvres, l'œil est attiré par 3 grandes plages rouges. Celle du manteau du Christ Sauveur, qui est au milieu, au centre, dont les plaies sont apparentes. C'est lui qui a fait, qui par sa mort et sa résurrection a ouvert le chemin de la vie divine à l'humanité. Et puis, donc à la droite du Christ, le grand manteau rouge de l'apôtre Pierre qui a des yeux comme mouillés de larmes qui sont fixés sur le Christ, l'apôtre Pierre qui a renié 3 fois Jésus et qui a réparé ce reniement par une triple déclaration d'amour. Pierre, m'aimes-tu ? Tu sais bien que je t'aime. Et c'est sur cette parole que le Christ lui confie son Église. Donc, le manteau rouge de Pierre et à droite, donc à la gauche du Christ, le manteau rouge de Marie-Madeleine qui, elle, en essuyant les pieds de Jésus de ses cheveux, en répandant du parfum sur eux, a choqué Simon le pharisien, mais dont Jésus a dit, il lui est beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Et alors, il y a 2 femmes qui sont placées du côté où tous ceux qui se détournent vont vers l'enfer. Elles sont placées du même côté, mais elles sont très près du Christ et elles tendent les mains vers lui. Et autour d'elles, il y a des petites fleurs, comme il y a du côté du paradis, des élus. Et en plus, elles ont l'air sereins. Alors je me disais en les regardant, mais elles ont l'air sauvées, mais est-ce que je prends pas mes désirs pour des réalités? Et puis, ce rétable est tout entièrement bâti sur des jeux de diagonale. Donc, je vous disais la prééminence du haut sur le bas. Et j'ai eu la curiosité de regarder, de prolonger les mains tendues vers le Christ de celle qui est le plus près de lui. Et voilà ce que ça donne, la diagonale. On prolonge les mains, ça passe par l'aile de l'archange, ça continue par le pied gauche du Christ qui est beaucoup plus retiré, reculé que le pied droit, et ça aboutit à la main droite du Christ, celle qui dit « Venez les bénis de mon Père ». Donc, van der Weyden a dû avoir le conseil d'un théologien, enfin absolument extraordinaire, mais c'est un message très fort qui dit que quoi qu'on ait pu faire dans sa vie, quelle que soit la gravité de son péché, si on se tourne vers le Christ, on est sauvé.
C'est ainsi que beaucoup de ses œuvres sont devenues des modèles qui ont circulé dans les ateliers. Nous savons que l'existence de modèles est essentielle pour le développement de la peinture. Ces modèles étaient d'ailleurs considérés comme des choses extrêmement précieuses que l'on gardait dans des coffres fermant à clé, et l'on connaît les différents de manière juridique entre tel et tel artiste pour avoir ce trésor de modèles. Et il faut aussi se dire que l'atelier de Rogier a pu continuer avec un peintre que l'on appelle couramment le maître de la légende de Sainte-Catherine, mais qui est très probablement Pierre van der Weyden. Donc, le rayonnement a été grand. Sans doute, c'est parce que les sentiments correspondaient à certains aspects de la piété du temps. Et je voudrais ici citer une phrase « La dignité est conservée au milieu d'un flot de larmes ».
Écrire la Madone Libertaire, vous avez beaucoup regardé l'Annonciation de Roger van der Weyden qui se trouve au Louvre, Edith Vallée.
Oui, et j'aime beaucoup, beaucoup ce tableau parce que il rassemble en soi l'essentiel de ce qu'est l'Annonciation, c'est-à-dire un espace de sérénité où se fait la rencontre du ciel et de la terre. On y voit donc les deux personnages, l'ange et la Vierge. La Vierge est agenouillée, elle était en train de lire un livre d'heures, et l'ange a une attitude très respectueuse, un peu agenouillée, et ses ailes battent encore dans l'air. La Vierge est placée devant un lit rouge. Elle est séparée de l'ange. Il faut toujours que dans l'Annonciation soit bien indiqué l'espace terrestre et l'espace céleste.
Une espèce de colonne.
Une colonne rouge, oui, la colonne du lit descend et les sépare. Et chacun des personnages a une lumière particulière. L'ange est placé devant une fenêtre qui s'ouvre sur un lointain lumineux. Et la Vierge, elle, a une fenêtre qui nous est cachée. Et ça, je trouve ça très, très beau. C'est une lumière qui est intérieure, qui est intime et qui ne nous est pas donnée à voir.
Et la fenêtre ouvre sur un paysage.
La fenêtre ouvre sur un paysage, sur la vie et sur le ciel. On voit bien que l'ange vient de là. Et il va annoncer à Marie qu'elle, il va lui demander si elle veut bien être la mère de Dieu. On voit que un banc a été poussé devant une cheminée et il y a aussi derrière un petit meuble entrouvert et il y a sur ce meuble une aiguière et au-dessus, au centre du plafond, pend un lustre en dinanderie, en belle dinanderie des Pays-Bas. Il faut dire aussi que sur la cheminée, on peut voir une carafe remplie d'eau et puis deux oranges. Tous ces symboles sont évidemment très très riches et en fait ils sont l'objet d'une profonde méditation. Et ces tableaux-là sont des tableaux qui incitent à la prière et à la réflexion. Alors tous ces symboles-là sont pour dire la virginité de Marie, sont pour dire sa pureté et sont pour dire la pureté de l'intention de l'ange et pour montrer de quelle façon Marie accepte le projet divin. Symbolise toujours le bâton de l'ange, son bâton de messager. Au début, il avait un bâton. Maintenant, au XVe siècle, c'est un lys qu'il tient à la main. Et là, il ne le tient plus à la main, il est dans un vase. On s'est beaucoup interrogé sur la signification de ces trois fleurs de lys. Elles représentent, bien sûr, d'une part, la Trinité, trois. Elles représentent aussi la virginité de la Vierge au travers de sa maternité, c'est-à-dire qu'elle est Vierge ante, in et postpartum, avant, pendant et après l'accouchement. Et moi, je me suis toujours demandé ce que signifiait en haut ce que Roger van der Weyden avait rajouté, en haut du bouquet, un bouton de fleurs, et en bas, à côté des trois fleurs, il y en a aussi une qui est en train de s'étioler et de perdre ses pétales, et on voit deux pétales au sol. Et finalement, je crois que ça veut dire qu'elle est vierge avant, pendant et après l'accouchement, mais elle est vierge aussi du début à la fin des temps, du lys jusqu'à ce que le lys tombe à terre. Et ça, c'est le point de départ d'une méditation très importante qui réfléchit sur l'origine de la Vierge et qui dit que probablement, enfin, la Vierge était conçue dans l'esprit de Dieu avant même d'être née, bien sûr, et avant même peut-être la naissance de l'univers.
Alors, tant de symboles de pureté, de sacré, de respect. On peut se demander s'il y a des signes du malin.
Alors, oui, c'est vrai, dans de nombreuses annonciations et dans aussi des nativités, on trouve la présence du malin. Alors pourquoi ? Ben parce que le fait que la Vierge reçoive le Fils de Dieu en son sein va faire basculer le monde et que le monde va pouvoir accéder à la rédemption. Donc, du coup, le diable ne va pas disparaître, mais il perd des points. Et ce qui est extraordinaire dans cette annonciation de van der Weyden, c'est que le diable y est présent partout, dans une immobilité tranquille et silencieuse et occulte aussi quelquefois, mais il est présent partout. Il faut d'abord se reporter sur le lustre. Le lustre est un travail en dinanderie, 6 bougeoirs disposés en cercle, et chacun des bougeoirs est porté par un monstre. Un monstre le tient dans sa gueule, un bougeoir, c'est donc il porte la lumière. Et on sait bien que Lucifer est celui qui porte la lumière. Toutes les bougies ont été retirées, sauf une. Ça veut dire que la lumière de Lucifer va s'éteindre, mais il reste encore une bougie et il faudrait une main malveillante. Une main malveillante peut très facilement la rallumer. Donc nous voilà en face de 6 monstres en haut, et puis il y en a même un septième qui est suspendu au milieu des chaînes qui soutiennent le lustre.
Il faut bien regarder.
Il faut bien regarder, il est grimaçant. Vous avez raison, il faut bien regarder, parce que en plus, les monstres sont pas bien visibles. Et même pas les bougies d'ailleurs. On en voit 3 d'un côté et puis 2 de l'autre, et on doit bien comprendre que l'effet de perspective provoque que la disparition d'un des bougeoirs, et il provoque tout à fait la disparition des autres monstres. Mais moi, je les ai bien comptés, il y en a bien 6, plus un en haut. Nous sommes à donc 7 monstres. Et ce lustre est juste au-dessus d'une aiguière. L'aiguière est elle-même aussi en dinanderie, et elle évoque une espèce de petit monstre, et même un monstre bifide. Donc nous en sommes à 8. Et j'ai cherché, je me suis dit, s'il y en a 8, il y en a peut-être d'autres. Alors j'ai cherché sous le banc, parce que j'ai déjà vu des annonciations du 15e siècle de peintres, enfin de maîtres allemands, où on découvre un chat sous le banc. Donc j'ai bien cherché sous le banc, et puis non, c'est noir, j'ai rien vu. Et en regardant, ben j'ai bien vu sur les 4 coins du dossier, en fait, il y a des petits chats ou des sortes de sphinx, enfin des félins assis. Et on sait que le diable a souvent figure de chat, et il y en a donc 4. Donc nous avons en tout 12 monstres. 12 monstres dont certains sont cachés. Or, on sait que 12 est le signe de la totalité. Ça veut dire que tous les monstres sont là, présents. Toutes les figures du malin se sont rassemblées. Toutes les possibilités du mal sont là au moment de l'annonciation. Et bien entendu, elles vont se donner libre cours à leurs inventivités par la suite des temps. Mais le diable grimace, parce que il sait que il va être mis à mal lui-même. Il est en grand danger avec la venue du Fils de Dieu. Et il signifie aussi la liberté de la Vierge. C'est-à-dire que elle eût pu choisir le mal, or elle a choisi le bien.
Le canonnier d'amour fut pointé la bombarde de pensée qui m'a lancé la prière de plaisir en plein cœur sans vouloir le blesser. De souvenir, espoir et désir fut toute mélangée la poudre par doux regard le canonnier d'amour. L'ardent désir vint pour la mise à feu dont violemment la poudre fut allumée. Sa chaleur me demeure encore au fond du cœur qui ne peut refroidir par doux regard le canonnier d'amour.
Oui, parce que cette Vierge est en train de lire.
Voilà, elle est en train de lire, et elle était en train de lire soit un livre d'heures, soit plus vraisemblablement les prophéties d'Isaïe, qui annonce justement sa venue. Et quand l'ange survient, elle écarte le livre. C'est là, on dirait presque, pardonnez-moi l'expression, qu'elle le laisse tomber. Et dans toutes les annonciations, il en est ainsi. Ce n'est pas spécifique à Van der Weyden. La Vierge écarte le livre. Donc c'est un geste un peu curieux de la part de celle qui va recevoir le Fils de Dieu. Moi, je pense que c'est parce que, justement, c'est à ce moment-là qu'elle est parfaitement libre, c'est à ce moment-là qu'elle ne lit plus. Et sa réponse, ce qu'elle va dire à l'ange, elle l'invente. Elle la connaît au fond de son cœur, elle la sort du fond de son cœur, elle va lui dire oui à sa façon. Elle va lui dire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole ». Donc elle dit cela en deux temps, « Je suis la servante du Seigneur ». Donc moi je suis proche du Seigneur, et ça c'est dans mon intimité que je réponds. Et puis elle lui dit encore « Qu'il advienne selon ce que tu dis ». Donc ce que tu dis, toi l'ange, c'est c'est un autre domaine, c'est l'adaptation au monde. Et la Vierge est en train là de signifier qu'il y a deux moments dans sa réponse. Le moment de sa liberté absolue qu'elle trouve dans son cœur, c'est celui de sa proximité à Dieu, et la personne ne peut intervenir sur sa façon de voir les choses, sa façon de répondre. Et puis ensuite, elle répond une réponse d'adaptation, qui soit fait selon ta parole à toi, à ta parole de l'ange. Elle ne dit pas qu'il soit fait selon sa parole. Elle eût pu dire qu'il soit fait selon sa parole, la parole de Dieu. Non, elle dit qu'il soit fait selon ta parole à toi, l'ange, le messager. Tout ce qui est de l'ordre de l'adaptation et de la réponse aux injonctions du monde, ça, elle peut faire. Mais ce qu'elle dit d'important, c'est « Je suis la servante du Seigneur, je suis proche. »
On peut dire que Roger van der Weyden a introduit une autre innovation à propos du tableau Saint-Luc dessinant la Vierge, Tsvetan Todorov.
Ce tableau peut servir d'emblème à cette découverte que sont en train d'accomplir les grands peintres flamands du XVe siècle, bien que, d'une autre manière, il ne soit pas une innovation. En effet, ce tableau est un décalque à bien des égards d'un autre tableau, à savoir cette même Vierge du chancelier Rollin, dans laquelle apparaît le portrait de Rollin que va peindre aussi Roger van der Weyden. De la même manière que Van Eyck, van der Weyden va organiser le tableau avec deux figures disposées près des deux bords du tableau, sauf qu'il inversera la place de la Vierge et de l'individu purement contemporain mais terrestre. Et puis au milieu, il y aura un paysage, une vue en profondeur, une surface d'eau, avec des habitations et un paysage de nature, représentation de la nature. Donc, Roger van der Weyden reprend la composition de son aîné, probablement Van Eyck, son aîné d'une vingtaine d'années, mais il est tout à fait clair qu'il connaît cette représentation. Donc, souvenons-nous, dans celle de Van Eyck, nous voyons la Vierge à droite et sur la gauche, le chancelier Rollin prie devant elle. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire que le chancelier Rollin est en présence de la Vierge, non seulement pour des raisons d'anachronisme, mais aussi pour des raisons de hiérarchie. Mais c'est son émanation qui se trouve venue auprès de la Vierge. Rollin est un personnage aussi haut placé que possible. Seul le duc de Bourgogne est au-dessus de lui. Qu'est-ce que nous voyons dans le tableau de Roger van der Weyden, dont je signale, il existe au moins 4 répliques datant à peu près de la même époque, même si l'on pense que c'est plutôt l'une d'entre elles qui est l'original et les autres les copies. Eh bien, nous voyons cette fois-ci la Vierge dans une pose beaucoup plus quotidienne, beaucoup plus humble que dans le tableau de Van Eyck, en train d'allaiter le petit enfant. Et en face d'elle, on voit le peintre, c'est Saint-Luc, qui, d'après un évangile apocryphe, aurait peint le portrait de la Vierge. Mais ce que représente par conséquent Roger van der Weyden, c'est le peintre en train de peindre la Vierge. Et ce n'est plus le plus grand personnage de l'État qui se trouve introduit auprès de la Vierge, mais le peintre lui-même. Autrement dit, le peintre se trouve élevé, hissé, jusqu'aux statues des plus grands de ce monde. En plus, sur sa petite feuille, nous voyons le dessin qu'il commence à peindre. Autrement dit, il s'agit là d'un tableau dans le tableau, quelque chose que nous avons du mal un peu à attacher au tout début de cette peinture réaliste, figurative du 15e siècle. Nous serions plutôt tentés d'attribuer cela à une période tardive, maniériste, lorsqu'on va représenter la représentation elle-même. Eh bien, au contraire, c'est au tout début de la représentation qu'elle fait l'objet d'un reflet ici. On sait bien que dans les fiançailles des Arnolfini, Van Eyck lui-même va se représenter à l'intérieur du tableau comme un reflet. Ici, c'est de manière différente, ce n'est pas un reflet, c'est un peintre qui se trouve représenté, mais nous ne pouvons pas ne pas penser que Rogier se projette dans ce peintre et que donc il y a là une méditation sur la peinture et sa place qui se trouve introduite ainsi dans ce discours théologique, dans cet éloge de Dieu qui devient en même temps un éloge de l'homme.
Et de l'artiste.
Et de l'artiste qui incarne à son mieux l'humanité. Et on peut dire qu'en cela, Van der Weyden est particulièrement peintre de son temps, car pour lui, comme pour ses contemporains, mais donc de manière particulièrement claire pour lui, ce nouvel humanisme qui va apparaître, cette représentation de l'humain, comme on ne l'avait jamais fait auparavant, cette autonomie attribuée à la figure humaine, en même temps, n'est pas faite au détriment du monde où l'homme communique constamment avec Dieu. La peinture de Van der Weyden reste entièrement à l'intérieur du cadre théologique, religieux, qui avait été celui de son temps et de son peuple. Mais c'est en son sein même que commence cette lente émancipation de l'individu humain qui va aboutir plus tardivement par une élimination de la dimension divine et religieuse.
Le retable du jugement dernier de l'hôtel de Beaune, il y a aussi de très très beaux portraits Eliane Gondinet-Waldstein.
Alors en particulier celui de Marie qui est une des plus belles figures du retable. Et pour peindre Marie, Rogier n'a laissé à personne d'autre le soin de la peindre. Et on se rend compte que devant elle, sa peinture s'est faite prière, s'est faite tendresse. Il a réussi à lui infuser la vie. Il lui a donné un visage admirable de confiance et de joie sereine, avec des yeux d'un marron clair et chaud qui brillent de sa lumière, des joues qui se colorent du rose de la vie, des lèvres pleines et douces, légèrement renflées. On dirait qu'elles sont sur le point de s'ouvrir, de parler. On sent que Van der Weyden est vraiment un amoureux reconnaissant en face de Marie.
Quel est votre regard de peintre contemporain sur cette peinture du XVe siècle flamand, le triptyque Braque-Saoul Caminer?
Pour moi, je le vois comme une peinture contemporaine. C'est une peinture qui me parle comme si j'allais voir le musée Picasso. Ils me disent des choses différentes. C'est une œuvre qui ne vieillit pas, je dirais. Et ce qui vieillit, ce qui est attaché à son temps, c'est les informations duquel il parle, mais le monde symbolique qui exprime la composition, l'introduction des éléments écrits. On pourrait trouver des peintres qui veulent dire les mêmes choses. Ils les disent, c'est comme si les personnages du tableau étaient habillés des costumes de leur époque, mais si les mêmes tableaux étaient faits avec des costumes de notre époque, ça serait une lecture actuelle. Une des choses qui me parle, qui me dit les tableaux, en dehors de son aspect pictural, c'est que c'est un peintre comme je vois les peintres d'aujourd'hui, mes amis, les peintres que j'admire. Tous, ils nous parlent aussi de ce processus dans lequel l'être essaye d'aller vers soi-même. Ici, on peut voir qu'il y a le Christ, il est entouré d'une quaternité. Il y a deux couples qui entourent le Christ. Et c'est aussi comme la quaternité, c'est aussi ce qui nous permet d'être dans le monde. On est deux couples, il y a une continuité, il y a un monde féminin et masculin en équilibre. Et puis, il y a, quand le triptyque il est fermé, il y a la mort. Il y a la croix. La croix, il ne faut pas oublier que la croix, c'est un monde immanent, horizontal, qui est croisé par un monde vertical, transcendant. Et donc, il y a une. C'est comme un cercle qui est fermé. C'est qu'on appelle chez les alchimistes l'ouroboros.
Évidemment, ce crâne, ça doit vous dire quelque chose au peintre mexicain que vous êtes, Saúl Caminer.
Bah oui, effectivement, les représentations, les images de la mort, depuis l'époque préhispanique, des Aztèques jusqu'à nos jours, ils sont très parlants au Mexique. On fête les jours de mort comme c'est un rituel qui est fêté. C'est pas qu'on rigole, mais c'est une fête. On offre des crins en sucre aux gens avec leur nom les jours de la fête de mort et les gens les mangent. C'est un rapport à la réalité différent.
Et Roger van der Weyden, Tsvetan Todorov, inaugure aussi un genre nouveau qui est le portrait de dévotion.
Voilà, il a aussi innové à cet égard. Il a laissé un certain nombre de tableaux qui sont de petits formats, ce sont des diptyques. Sur l'un des côtés, on voit la Vierge, généralement, et sur l'autre, le commanditaire, donc celui pour qui est fait le tableau et qui le représente. Ce sont des tableaux très intéressants parce que ce sont des tableaux à usage personnel.
Privé. Hein.
La représentation du commanditaire est à cette époque une chose acquise. Tous les grands ont fait cela. Nous les voyons, mais ce sont donc dans un tableau qui va représenter la passion ou un saint ou une scène quelconque. Et puis, dans les panneaux à côté, dans les deux, souvent c'est articulé, n'est-ce pas, en plusieurs morceaux, comme par exemple dans l'agneau mystique de Van Eyck à à Gand, nous les voyons séparés. Ce sont un peu les premiers portraits. Ici, les choses sont ramenées en quelque sorte à l'essentiel et à l'usage privé. Cela me laisse rêveur. J'essaie d'imaginer ce personnage tel noble, tel personnage important. Est-ce qu'il priait vraiment devant son propre portrait? Comment voyait-il cette représentation de lui-même juxtaposée à la Vierge? Éprouvait-il particulièrement de l'humilité ou de l'orgueil en se voyant là? Je ne sais. Mais je suis fasciné par ces portraits parce que, un peu comme pour Saint-Luc, mais de façon beaucoup plus concrète, nullement allégorique, elle nous représente un individu. Individu confronté, là aussi, à la doctrine chrétienne, à l'enseignement chrétien, à ce qui l'incarne purement, Jésus ou la Vierge, mais donc en l'occurrence la Vierge. Et cette manière d'isoler et de mettre en valeur l'individu est évidemment un des traits caractéristiques aussi de la peinture de Roger van der Weyden.
Ce qui est important, c'est comment le tableau apparaît. Il apparaît d'abord, comme si on allait dans un continent qu'on ne connaissait pas, et il apparaît d'abord. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Pour moi, c'est ça l'approche de la peinture aussi. J'arrive devant une chair picturale, et d'abord, je laisse que ça me parle. Ça ne se dirige jamais à mon cerveau, au mental. Ça se dirige toujours à la peau. Et j'arrive devant cette œuvre, et je vois une apparition. Après, je commence à sentir la signification, mais d'abord, il y a ce qui se dégage du tableau, c'est une puissance picturale et signifiante en même temps. Et on ne peut pas comprendre. Je dirais même aujourd'hui que j'arrive pas à comprendre ce tableau dans le sens où chaque fois que je suis en face, je suis envoûté, incapable de penser. Mais simplement là, c'est pour moi aussi un espace de contemplation.
Il est à Philadelphie et c'est un diptyque. Alors que celui du Prado, c'est Saint-Jean, la Vierge et Jésus. Là, c'est divisé en deux. Mais de façon, on dirait que c'est une mise en scène purement théâtrale, puisque Jésus est crucifié devant un tissu rouge. Et puis les deux implorants, qui là, au moins, étaient au pied de la croix, là, ils sont même pas au pied de la croix. Tout est comme si on faisait un décor de théâtre. Enfin, c'est un côté vraiment tellement sortant de toute vraisemblance.
Ah oui.
Après avoir fait la vraisemblance la plus totale, la plus complète avec ces tableaux précédents.
Ah oui. Au fond, il réduit les choses à leur essence.
Ah oui, c'est une sorte d'épure exceptionnelle. Oui. Qu'il est le seul à faire à cette époque ou plus tard. On a envie de le rapprocher, là, je ne sais pas, de quelques peintres abstraits, plutôt que de le voir avec ses contemporains et avec ses propres découvertes que nous pouvions voir dans les autres tableaux, dans lesquels vous pouvez voir le moindre poil, le moindre pli de la peau, la moindre ombre. Ici, c'est une situation entièrement théâtralisée. Nous sommes sortis de la représentation pour être dans une affirmation, dans une présentation pure. Avec la Vierge et Saint Jean d'un côté, séparés donc de Jésus, les uns comme les autres, sur le fond d'un tissu rouge, qui n'a évidemment aucune vraisemblance dans aucun contexte, mais qui est là parce que cela fait ressortir comme il faut ces personnages. Donc nous avons quitté là ce monde que Roger van der Weyden a tellement contribué à domestiquer, à apprivoiser, qui est le monde même de la représentation. Pensez que ces tableaux, ainsi que celui du Prado qui leur est relié, sont probablement les derniers tableaux du peintre, fait voir que van der Weyden a vraiment parcouru un cursus, il y a une courbe dans son évolution qui est tout à fait unique dans l'histoire de la peinture.
J'aime à dire que ce sont des couleurs d'espérance. Ce sont des couleurs qui veulent rendre cœur, qui veulent rendre joie à ces malades qui souffrent, dont certains se préparent à mourir. Et c'est la joie qui domine dans ce retable. Et alors évidemment, il a tout pour lui, parce que van der Weyden et les peintres flamands, ils partent de la miniature, alors que les peintres italiens partent de la fresque. Alors, quand on s'approche de ce retable, les détails sont absolument remarquables, toutes les petites fleurs, la jambe de Jean-Baptiste que les guides se plaisent à faire observer à la loupe, parce qu'on peut voir les poils, tous les détails. Et puis en même temps, il y a cet art de ce portraitiste remarquable qu'est van der Weyden, et puis cet art de la composition qui fait que, moi, quand j'ai vu ce retable pour la première fois, j'ai éprouvé un véritable coup de foudre pour lui.
Une vie, une œuvre, Roger van der Weyden. Avec Eliane Gondinet-Wallstein, auteur de Un retable pour le au-delà, paru dans la collection Un certain regard qu'elle a créé aux éditions MAM. Edith Vallée, auteur de La Madone libertaire aux éditions Imago. Tsvetan Todorov, directeur de recherche au CNRS, auteur de Éloge de l'individu aux éditions Adam Biro. Roger Van Scoot, professeur à l'Université catholique de Louvain, qui a dirigé l'ouvrage Les primitifs flamands et leur temps aux éditions La Renaissance du Livre, et Saoul Kaminer, peintre à la galerie Tessa Herold. Les textes de Adam Delahalle et Georges Chastelain étaient lus par Pierre Marteau. Documentation Maria Contreras. Coordination Elena Snyder. Prise de son Frédéric Sordoyet. Mixage Claude Niort. Une émission de Luc Ponette réalisée par Isabelle Huel.